Bon, je donne la parole à Olivier Grignon. Tu parles assis ou debout ?
Non, je parle assis. Attends, m'assois.
Alors,
tu surveilles avec moi.
Hein ? Oui, j'ai pris ma fonction.
Bien, commençons. Ça n'est plus affiché derrière moi, mais il y avait tout à l'heure cette phrase absolument splendide de Françoise Dolto qui me semble être la meilleure des introductions à ce que je vais vous proposer. Le langage de vérité, le langage de vérité est terrible. Je souhaite défendre une thèse ce matin, une thèse à la fois très simple à formuler, mais très difficile à accepter. Certes, l'apport de Françoise Dolto est vaste. Il touche tout ce qui concerne les voies de l'humanisation, c'est-à-dire aussi bien la prévention, l'éducation, etc. Mais ceci reposait pour elle sur un socle, un point nodal, l'exercice de la psychanalyse en tant qu'il est une pratique de l'inconscient. Et en ce qui la concernait, elle tout particulièrement, une pratique et une théorie de l'inconscient qui touchait aux strates les plus archaïques du sujet. Ce qui en fait preuve, à mon avis, c'est sa capacité absolument inouïe, le talent qu'elle a eu à sortir d'affaires des enfants extrêmement fous ou régressés, réputée inaccessible à la psychothérapie, bien sûr, ainsi qu'à tout autre traitement. J'affirme qu'avoir vu cela de ses yeux donne une foi inébranlable en la psychanalyse et à ses pouvoirs, à condition, bien sûr, que les psychanalystes eux-mêmes ne viennent pas limiter ces pouvoirs-là. Et comme vous le savez, la foi, ça déplace les montagnes, c'est-à-dire les montagnes du conformisme, le conformisme des médicaments et de l'idéologie médicale. Si on supprime cela, rien ne vient distinguer en apparence, les idées de Françoise Dolto de n'importe quelle idéologie. Il y a là un danger qui a ce matin été signalé par Catherine Dolto, un danger sur ce à quoi on pourrait rabattre son œuvre. C'est par exemple le genre de débat où on oppose une idéologie à une autre, une supposée idéologie de Françoise Dolto à une autre idéologie. Par exemple, il faut sévir. Non, il ne faut pas sévir, il faut être permissif, non, il ne faut pas être permissif, etc. Toutes ces conneries. Ce qui s'oppose à cela, ce qui fait verrou, c'est l'arrimage de sa pensée sur l'acte psychanalytique lui-même. L'existence de l'inconscient, c'est le roc et la base de son œuvre. Freud affirmait que la transmission de la psychanalyse est impossible en dehors de l'expérience de la cure personnelle parce qu'elle seule peut assurer ce qui fait le socle de notre pratique, à savoir l'acte de foi en l'inconscient, formule de Freud. Or, non seulement le dispositif inventé par Françoise Dolto à sa consultation de l'hôpital Trousseau, qui est unique à ma connaissance, a bel et bien réalisé cette transmission de l'impossible à transmettre, mais en plus, ou surtout, je pense qu'il était une nécessité interne au risque de son engagement clinique. Donc, Françoise Dolto était d'abord et avant tout psychanalyste. Et parce qu'elle était une vraie psychanalyste, elle a eu un abord peu commun de la transmission, comme je vais essayer de vous le montrer. Je dirais donc que cette mise en acte de l'inconscient, qu'était la consultation de Trousseau, à elle seule, est ce qui fait radicalement de l'œuvre qu'elle nous a laissée quelque chose qui ne peut pas être rabattu sur une pédagogie, une morale, ou bien des traités qui seraient autant de recettes pour des conduites à tenir. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce que Trousseau démontre, c'est que rien ne peut nous épargner la nécessité d'entendre. C'est ça qu'elle faisait d'abord et avant tout, entendre le langage du symptôme dans sa singularité absolue et décisive. Pour vous le montrer, je vais partir d'un petit texte qu'elle avait écrit pour des arguments préparatoires à un congrès de l'école freudienne de Paris sur la transmission de la psychanalyse. C'était ça, le projet et l'intitulé de ce congrès. Il y avait donc un petit livret d'arguments qui avait été distribué avant, et elle avait proposé une table ronde à ce congrès. Elle avait donc écrit un argument. Ce que je veux déjà dire, avant de vous en lire quelques passages à propos de ce texte, je voudrais déjà vous proposer quelques remarques. D'abord, c'est un texte. Donc, il s'agit d'un écrit de Françoise Dolto. Deuxièmement, elle l'écrit à propos de l'expérience de la consultation de Trousseau pour en donner une première théorisation, afin donc de proposer une table ronde à ce congrès de l'école freudienne de Paris sur cette expérience. Voilà l'intitulé qu'elle proposait. Table ronde sur les effets de transmission de la psychanalyse par l'assistance de psychanalystes en formation à la consultation de Trousseau, ou depuis 20 ans, des entretiens psychanalytiques et des cures d'enfants en institution ou en famille se font par elle en présence de 10 à 12 personnes, praticiens analysés ou en analyse à visée didactique. Je vous signale aussi que c'est dans ce petit texte qu'elle annoncera, officiellement en quelque sorte, qu'elle va arrêter. Elle le dit, elle va arrêter en juin prochain. Le congrès avait lieu en juillet 78. Les arguments avaient été distribués avant. Elle l'avait donc écrit bien avant. Et elle annonce officiellement aux membres de l'école freudienne de Paris que cette consultation de l'hôpital Trousseau va s'arrêter en juin prochain. Qu'est-ce qu'elle y dit ? Elle y dit plusieurs choses. Elle y dit notamment que ceux qui vont faire participer à cette table ronde devront bien sûr avoir assisté à cette consultation de Trousseau. Elle dit ensuite qu'ils devront parler de l'impact théorique et clinique sur eux-mêmes, pas de l'impact sur les enfants qu'elle suivait en consultation, non. Il s'agira, pour ceux qui vont participer à cette table ronde, de parler de l'impact clinique et théorique sur eux-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils étaient, dit-elle, des participants, pas des assistants et donc pas des voyeurs, des participants. Vous avez donc un premier niveau, un premier saut dans ce texte, ce ne sont pas des assistants, ce sont des participants. Mais il y en a un deuxième qui est une affirmation absolument incroyable. Elle dit, eh bien, Ils ont été mes contrôleurs. Et elle pose la question, est-ce que c'est cela, le fait qu'ils aient été mes contrôleurs, qui est l'élément fondamental de cette expérience de formation analytique? À la suite de quoi elle dégage les points de théorie qui seront à questionner, illustrés, dit-elle, par la pratique des premiers entretiens. Donc elle insiste sur le fait qu'il y aurait quelque chose de particulièrement formateur dans cette participation, notamment en ce qui concerne les premiers entretiens. Suit toute une liste de concepts, c'est beaucoup dire. Bon, de points de théorie, si l'on veut. Enfin, il y a toute une liste qui paraît assez hétéroclite, mais qui me semble d'une extrême importance. Je ne vais pas vous la citer tout de suite. Si j'ai le temps tout à l'heure, je le ferai, parce que c'est déjà à elle seule, cette liste même, une lecture par elle-même des points clés de sa praxis. Je préfère en venir d'abord au problème crucial que je veux souligner pour vous, ce que j'appellerais sa thèse centrale, celle du fameux contrôle. Elle dit la chose suivante. Cette expérience qui consiste à aller contrôler l'analyste dans son travail, cette expérience, la nôtre, hein, celle des soi-disant participants, hein, donc d'aller contrôler l'analyste, elle, Françoise Dolto, à sa consultation hospitalière, situation que promeut la présence d'autres analystes, confirmés ou en formation, apporte-t-elle à ses participants une expérience irremplaçable? Et en quoi est-elle spécifique? Est-elle complément, adjuvant ou gêne à leur propre analyse s'ils ne l'ont pas terminée? Est-ce, comme je le crois, un moyen de transmission de l'analyse? J'affirme que ça, c'est la thèse centrale, hein, de ce que propose là, à ce moment-là, Françoise Dolto. Elle ajoute plus tard, plus loin dans le texte, une autre thèse que je veux discuter également. Et s'il ressort de cette table ronde que la consultation hospitalière en présence d'analystes en formation contribue à la transmission de l'analyse, d'autres analystes sont-ils prêts pour la relève et à contribuer à leur tour à la formation des analystes aux questions théoriques et pratiques de son application au sujet en tutelle et plus particulièrement aux enfants par le moyen que mon désir de transmettre l'analyse m'a fait choisir et assumer. Là encore, une phrase. Pour ma part, je pense que ce médiateur de la formation des analystes, non confondable avec les effets des contrôles que l'analyste peut avoir entrepris par ailleurs avec d'autres analystes à propos des cures qu'il prend en charge, ne vient pas de ce que moi, Françoise Dolto, suis, dis ou fais dans ma relation aux analysants, mais de l'observation, de l'écoute et de l'expérience qu'on acquiert à participer au travail en s'y impliquant, d'abord donc participer au travail de Françoise Dolto en s'y impliquant, puis en déjouant ce qu'il peut avoir d'effet de miroir, deuxième condition. Pourquoi? Pour arriver à quoi? Pour saisir ce qui de l'inconscient est en jeu dans, et je vous demande de retenir chacun de ces termes, une rencontre analytique curative. Voilà, définition implicite de la psychanalyse, à ce moment-là dans ce texte, rencontre analytique curative, ou du moins exploratrice des névroses et des psychoses infantiles, et y affiner son écoute. Donc je relève qu'il faudra bien que entendre, le fait d'entendre, fasse rencontre. Il faut entendre. Bien différent donc d'appliquer des grilles de lecture y compris celle proposée, celle dont elle se sert elle-même. Ce qu'il y aurait donc, j'en conclus dans ce texte, à apprendre, c'est cela. Ou plutôt, c'est ça qui serait non pas à apprendre, il n'y a rien à apprendre, sinon par soi-même dans une certaine évolution que je vais essayer de vous indiquer, c'est ça qui va faire donc transmission de la psychanalyse. Il y a donc là deux affirmations qu'elle proposait au travail à l'école freudienne de Paris. Premièrement, la cure est une rencontre et l'assistant est en réalité contrôleur. Et donc, c'est en ça que ce qui se transmettait à Trousseau était authentiquement de la psychanalyse, puisque ça supposait de faire le chemin, de subjectiver ce trajet qui mène de voyeur initial à contrôleur. Deuxième thèse, ça ne vient pas de moi, dit-elle, ça ne vient pas de ce que je suis ou de ce que je dis. Je vais donc discuter ces deux thèses. Cette première affirmation, celle que nous étions des contrôleurs, a bien sûr quelque chose de tout à fait stupéfiant. Vous imaginez cela, un débutant, bébé psychanalyste, contrôleur de Françoise Dolto, qui était quand même déjà à cette époque une sorte de diva assoluta de la psychanalyse. Ça revient à dire que dans ce temps-là, en tout cas où moi, subjectivement, je pouvais m'y reconnaître, bien sûr, c'est elle qui sait et moi, je ne sais rien. Eh bien, celle qui sait, c'est elle qui sait, moi je ne sais rien, mais pourtant, je suis son contrôleur. Vous voyez qu'il y a là, implicitement, une théorie du contrôle qui va certainement à l'encontre de toutes les déviations néopositivistes du savoir dans la psychanalyse. Voilà en tout cas quelque chose qui subvertit radicalement l'idée qu'on peut avoir du savoir en jeu dans notre pratique. Pour le résumer, disons qu'il s'agit en effet que le savoir soit en position de vérité, ce qui est une sacrée gageure, et comme je le rappelais à l'instant dans la phrase qui était projetée tout à l'heure, quelque chose qui justement est terrible. Quoi qu'il en soit, pour Françoise Dolto, nous n'étions pas là, ou pas seulement, en tout cas ça semble là à ce moment-là dans ce texte secondaire pour elle, nous n'étions pas là pour apprendre des théories ou pour apprendre son tour de main, son savoir-y-faire. Ce qu'elle met en avant dans la lecture qu'elle fait de Trousseau au moment de conclure cette expérience, tout à fait à la fin, ce qu'elle met en avant, c'est son transfert à elle sur les participants. Ce qu'elle met en avant, donc, c'est le transfert. Autrement dit, il y avait transmission de la psychanalyse parce que l'essentiel se transmet dans un transfert. J'affirme que transfert, c'est le mot qui répond au mot de rencontre qu'elle propose dans ce texte. Il s'agira donc d'un savoir du transfert, un savoir dans le transfert, conféré par le transfert. Et ceci me semble clairement confirmé par le dispositif qu'elle avait inventé à Trousseau. Je pense que cette transmission ahurissante qu'elle s'est autorisée avec des novices de l'analyse, des apprentis, ce n'était pas seulement son altruisme ou même le devoir de transmission au sens habituel de ce terme. Bien sûr, c'était aussi ça. Mais il y avait en jeu quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il est indéniable que malgré la dizaine d'assistants alignés sur le côté, quand l'enfant rentrait dans la pièce, il rentrait dans l'espace de Françoise Dolto. Le bureau était en forme de L. Un côté du bureau était face à l'enfant, l'autre face aux assistants participants. Donc, Françoise Dolto pouvait pivoter avec son fauteuil, d'un côté, d'une branche à l'autre, du L. Il y avait donc un dispositif quasi corporel dans ce qu'elle avait inventé. Son corps, il pouvait être soit face à l'enfant, mais il vaudrait mieux que je dise plutôt que face, plutôt il était, elle était pas face mais dans l'enfant, parce qu'elle savait se glisser subjectivement au lieu le plus régressé où pouvait se tenir le plus fou et le plus psychosé où était cet enfant. Voilà bien un nœud du problème. Parce que c'est là où il y a quelque chose qui, à l'évidence, tenait à elle et à son génie clinique, cette capacité-là. Mais par ailleurs, vous connaissez sûrement l'extraordinaire férocité qu'elle avait, son absolue non-complaisance avec ce monde de la régression. C'est ça qui m'a le plus frappé chez elle. À la fois son incroyable talent, ce don à aller dans cet espace-là, et la rigueur implacable qu'elle a du reste théorisée, ça a été rappelé ce matin, hein, c'est sa théorie des castrations exigibles, c'est-à-dire, au fond, la nécessité d'en sortir. C'est-à-dire, non pas y aller dans cet espace-là pour en jouir sous le prétexte de l'enfant, ou encore pire, avec l'enfant, mais y aller pour en ramener l'enfant dans une sorte d'aller-retour. Et c'est là que les participants, à mon avis, avaient une fonction très importante. Parce que comme elles se tournaient vers nous, assez souvent, pour rendre compte de ce qui était en train de se passer avec l'enfant, vous saisissez sûrement que dans ce devoir qu'elle s'imposait de théoriser pour nous, dans cette adresse, donc dans ce transfert sur nous de Françoise Dolto, il y avait en quelque sorte une rupture d'état, un passage en quelque sorte d'une immanence à une transcendance. Elle s'adressait à l'enfant. Elle était dedans l'espace de l'enfant avec lui, mais elle en sortait et nous l'aidions à cela. Nous l'aidions à faire ce passage d'un monde à un autre, du monde de la folie au monde où l'on parle. Cet art-là est un exercice périlleux, terrible, elle disait. Dangereux, je dirais. C'est le contraire de l'égo-psychologie, où on se sert de schémas explicatifs pour dialoguer de moi à moi avec le patient, c'est-à-dire redevenir des psychologues, c'est-à-dire des docteurs, c'est exactement la même chose. Là, dans l'égo-psychologie, le moi est bien tranquille, tout est bien à sa place, on est bien dans l'imaginaire et dans la représentation, on est, comme on dit, réveillé, c'est-à-dire qu'on continue de rêvasser tranquillement. Et vous voyez bien que cela n'a rien à voir avec ce que faisait Dolto, qui allait se glisser subjectivement dans l'univers de la psychose. L'égo-psychologie, c'est cette pente naturelle qui fait que, qu'on le veuille ou non, on analyse, on écoute à partir de son moi, ce moi auquel on tient tant. Mais tout autre est une pratique où nous intervenons et où nous entendons en tant que sujet. Mais attention, pas avec n'importe quel état de sujet. Avec un état de sujet plutôt précaire, plutôt mal en point presque, on pourrait dire. Ce qui peut-être pourrait nommer au mieux cette espèce d'état de sujet qui est le sujet qui entend ce qu'il y a à entendre, il me semble que je l'emprunterais à des formules de Lacan, présujet ou état de sujet aux racines du langage. Vous voyez bien que cette disponibilité psychique-là, y être, justement, c'est peut-être ça qui est tout à fait terrible. Donc, à mon avis, oui, bien sûr, les assistants étaient des participants. Du reste, elles nous demandaient parfois d'intervenir. Elles pensaient parfois que quelque chose devait être dit à l'enfant avec une voix d'homme. Alors, elles demandaient à l'un d'entre nous, il y avait quand même quelques hommes qui assistaient, qui sont venus assister à la consultation de Trousseau, de dire quelque chose qu'elles nous demandaient parfois de dire ou pas. Donc, en ce sens, nous étions bien des participants. Mais nous étions même ces contrôleurs. Nous étions des contrôleurs sans même que nous l'ayons su. Et nous l'étions malgré notre noviciat. Jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce qu'on puisse consentir à avoir été son contrôleur. C'est-à-dire qu'on devienne un peu moins novice dans la psychanalyse. Pour la deuxième affirmation, là c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vraiment, vraiment, c'était indépendant de qui était Françoise Dolto ? Hélas, hélas, je n'y crois guère. Je n'y crois guère. Elle avait ce don, ce talent particulier. Autrement dit, ne peut prendre la relève, puisqu'elle y aspirait, que celui ou celle qui est à la fois capable de se glisser transférentiellement dans l'espace sans nom et à la fois capable de revenir et d'inscrire ce trajet dans une théorisation. Alors non, bien sûr, in fine, évidemment, ça tenait à elle. Mais elle a tout fait pour que ceci ne soit qu'un reste. Inélimidable, oui, mais seulement un reste. Sinon, bien sûr, il n'y aurait pas de transmission de la psychanalyse. On ne pourrait même pas parler de transmission. Merci.
Excellent.